Aujourd'hui, à Rencontre Spirituelle, c'est la fête, dans nous prions en église, partout dans l'église, de Notre-Dame de Guadeloupe, au Mexique. Elle est considérée, Notre-Dame de Guadeloupe, comme vraiment la reine du Mexique. Elle est très importante pour les catholiques du Mexique. Vous savez qu'il y a parfois jusqu'à 15 millions de personnes qui la vénèrent en un an. C'est absolument phénoménal. C'est une étonnante image, cependant. C'est vraiment extraordinaire. C'est une image de la Vierge qui aurait été remise miraculeusement à un Aztèque au Mexique en 1531. Et l'événement est survenu surtout le 12 décembre. Après quelques apparitions. La question a été mise en doute par certains historiens, dont Jacques Laffey, qui a publié chez Gallimard, en 1974, un ouvrage sur cette question, au titre un peu compliqué, Quetzalcoatl et Guadeloupe, la formation de la conscience nationale au Mexique. Pourtant, des savants très sérieux, mais extrêmement sérieux, qu'a consulté Bruno Bonnemar, et des recherches qu'il a faites nous prouvent bien que c'est authentique. Ça a été analysé scientifiquement. Pour en arriver à l'histoire de cette image que je vous raconte et qui est passionnante, disons que 10 ans après la prise de la ville de Mexico par les Espagnols, la guerre a cessé, c'était au début du XVIe siècle, et la paix s'est établie entre ces deux peuples, ou les différents peuples, parce qu'il y avait plusieurs peuples qui habitaient le Mexique, particulièrement les Aztèques. Et la foi a commencé à fleurir. Ils avaient d'excellents missionnaires, les Espagnols, et les Espagnols qui étaient plutôt cruels à l'égard des Aztèques et qui ont fait des choses terribles. Faut pas oublier que les Aztèques eux-mêmes étaient cruels entre eux, c'était effrayant. Mais ce sont les missionnaires, et c'est reconnu même par Jacques Laffey qui a écrit cet ouvrage chez Gallimard, que les missionnaires ont été extraordinaires et que l'Église aussi a défendu la dignité. La reine Isabelle aussi, dès la fin du XVe siècle, a défendu la dignité de ces indigènes, de ces hommes, de ces femmes. Et le 9 décembre 1531, donc, Jean Diego, un pauvre Indien, ou Juan Diego, si vous préférez, portait un nom espagnol, part pour la messe. Je pourrais vous donner son véritable nom, qui est un peu compliqué. Le jour se lève, là, quand il arrive à une colline, la colline de Tepeyacac. Et il se fait un grand bruit après des chants mystérieux et des bruits d'oiseaux. Et une voix l'appelle depuis le sommet d'une colline, de la colline où il est rendu, la colline de Tepeyacac. Et il entend Petit Jean Diego. En somme, il entend, à vrai dire, Juan Diego Tin. Et au lieu de l'effrayer, cet appel très suave, très doux, enflamme d'amour le cœur de ce campesino. La voix qui est féminine est très caressante. Elle appelle vers le sommet de la colline du Tepeyacac, dans la direction du levant, quoi. Et depuis un moment, Juan Diego fixe l'endroit des yeux parce que, évidemment, il y a un ramage, je vous ai dit, un insolite, qui s'y fait entendre encore, comme un concert d'oiseaux rares. C'est un chant harmonieux qui surpasse celui de la litorne marine et autres espèces aux champs renommés qui peuplent les bosquets du Mexique. Et soudain, la musique s'est tue. Le calme est revenu. Puis une voix enchanteresse qui l'a appelé tendrement « Mon petit Jean, mon petit Jean-Jacques. » « Juan Tiegotzin. » Alors, la traduction française, la traduction espagnole n'arrive pas à rendre exactement la nuance. Juanito, Juan Dieguito, la traduction espagnole, c'est pas ça tout à fait. Parce qu'il y a de l'exquise courtoisie dans la langue des gens de là-bas, des Aztèques. Une quasi-révérence. Ça relève la familiarité qui est contenue dans le suffixe nahuatl, c'est la langue, qui est le mot tin à la fin T, Z-I-N, comme on traduit ça dans notre langue. Alors, le vrai nom de Juan Diego, c'est Cuatlatoatzin. C'est un diminutif de Cuatlatoac, celui qui parle comme l'aigle. Il a été baptisé sous le nom de Juan Diego en 1524. 7 ans plus tard, il a 57 ans, quoi, il a été baptisé à 50 ans. C'est un homme encore alerte. Depuis qu'il a perdu sa femme, sa bien-aimée Lucia, c'est justement la fête de Sainte-Luce demain, Sainte-Lucie. Il n'a plus de pensée que pour le ciel. Et aussi, en entendant cette musique merveilleuse, il se croit en paradis. Alors, il va raconter plus tard le tumulte de ses pensées, en langue nahuatl, qui était conservé fidèlement. Il dit, « Est-ce que je le mérite? Suis-je digne d'entendre une telle merveille? Peut-être suis-je tout simplement en train de rêver? Ou suis-je peut-être dans la terre fleurie dont nous parlaient les anciennes, vos grands-parents, la terre nourricière? Ou peut-être suis-je au ciel? » Et voilà bien pris sur le vif le syncrétisme, espèce de mélange des religions, dont demeure imprégnée la mentalité de ces nouveaux catholiques. 10 ans après la conquête, c'est au témoignage même de toutes les chroniques missionnaires, il y a un mélange. Il y a encore un mélange. Ça existe chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mexicains. Ils ont gardé des traces de leur ancienne religion. Et d'emblée, c'est une note d'authenticité, me semble, qui va affirmer de 1000 autres manières au long du récit. Ce document que l'on désigne par ces 2 premiers mots, Nican Mopowa, voici le récit. Mais nous possédons de nombreuses versions dont l'étude critique a donné lieu à d'innombrables ouvrages et la bibliographie est immense. Mais ce Jacques Lafitte dont je vous parlais, qui a publié chez Gallimard, lui, il parle pas de ses livres sérieux. On dirait qu'il ne s'acharne que sur les livres qui pourraient prouver maladroitement que ce n'est pas historique. Juan Diego, le cœur battant d'allégresse, grimpe là où on l'appelle. Il découvre une ravissante jeune fille, éblouissante de lumière, qui se tient debout, puis qui lui demande d'approcher. Et quand il est tout près, mais c'est elle qui engage le dialogue d'amour. Elle lui dit, « Écoute, mon petit enfant, le plus petit, où vas-tu? » Alors lui, il est saisi d'admiration devant cette beauté qui n'est pas de la terre, et son vêtement est comme le soleil. Il irradie des rayons de lumière qui transfigurent tout. Les rochers, les cailloux de ce petit mont aride, entre lesquels poussent quelques acacias, puis des cactus, et métamorphosé en pierre précieuse. Ça lui apparaît comme ça, avec des fines émeraudes et des turquoises. La terre est baignée par des vagues d'arc-en-ciel. Puis il dit, « Madame, il l'appelle mon enfant, il a 57 ans, hein, puis elle est toute jeune. Madame, mon enfant, ma reine, je m'en vais aux affaires de Dieu. » Il s'en allait à la messe. Celle qui nous enseigne les ministres de notre Seigneur, nos prêtres. Et ce matin-là, le samedi 9 décembre 1531, premier jour de l'octave de l'Immaculée Conception, Juan Diego se rend à la messe à Tlatelolco, où les franciscains, premiers missionnaires de la Nouvelle-France, Nouvelle-Espagne, pardon, ont établi une sorte de centre catéchétique. Alors là, il distribue les sacrements, puis il dispense l'instruction chrétienne à tout un peuple de néophytes, qu'ils arrachent difficilement, n'est-ce pas, au paganisme ancestral, qui était très dur. Vous savez qu'à l'occasion, des fois, durant des fins de semaine, les prêtres de cette religion étrange ouvraient la poitrine de plusieurs milliers de jeunes gens de 20-22 ans pour leur arracher le cœur et l'offrir au soleil. C'était terrible, ces grands autels qu'on voit qui ont des marches, là. C'était couvert de sang. Hein. Alors, la Sainte Vierge lui montre beaucoup d'amour et elle lui dit « Sache et tiens pour certain, mon fils le plus petit, que je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, la mère du vrai Dieu, de celui par qui tout, le Créateur des hommes, par qui tout vit. Lui, le Créateur des hommes, le maître du voisinage immédiat, c'est bon, hein, le maître du voisinage immédiat et le Seigneur du ciel et de la terre. » Alors, ces noms divins qui sont pleins de mystères, qui sont intraduisibles quand on les lit, paraît-il, en nahuatl, désigne, parmi les divinités du panthéon aztèque, là, un dieu inconnu, créateur de toutes choses, auquel le pieux roi de Texcoco avait érigé au siècle auparavant, un temple en forme de haute tour sans aucune statue ni idole. Et Jacques Soustelle, dans l'univers des Aztèques, écrit cette divinité sans visage et sans mythe. Était appelée Tlocnahuac, expression reprise ici par la Vierge Marie, celui du voisinage immédiat, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors on l'appelait aussi Ipalnemowani, celui par qui tout vit. C'est donc ce Dieu-là, qui est le vrai, dont la Vierge Marie se déclare la mère, et puis elle poursuit. Voyez-vous, elle s'appuie sur ce Dieu inconnu pour dire que celui-là, c'est son Fils, c'est le vrai Dieu. Elle dit, je désire très ardemment, et ma volonté, c'est ma volonté, qu'en cet endroit, on me construise un petit théokali. Le mot est formé de théolt, Dieu, et kali, maison, maison de Dieu, quoi. Et voici que, au sommet de la petite colline pyramidale du Tepeyac, qui borde au nord la lagune de Mexico, là, la Vierge Marie demande modestement qu'on lui construise pour elle un petit théokali pour moi, comme elle dit. Mais ce n'est pas pour s'y faire adorer, à l'instar d'une nouvelle divinité, pas du tout. C'est bien plutôt pour y établir le culte du vrai Dieu, son Fils. Elle dit, « Là, je le montrerai, je l'exalterai, je le donnerai aux hommes par la médiation de mon amour à moi, de mon regard compatissant, de mon aide secourable, de mon salut. » Arrêtons là pour quelques instants pour écouter un hymne à la Vierge en langue aztèque de Hernando de Franco, ça date du 16e siècle de cette époque. Avant de continuer ce récit, je voudrais vous en donner peut-être le résumé pour vous avertir de ce qui va se passer. Hein. En 1531, donc 10 ans après la conquête du Mexique par Cortés, un Indien chrétien du nom de Juan Diego, il voit par 3 fois la Vierge Marie lui apparaître pour lui demander de prier l'évêque élu de Mexico, Juan de Zumárraga, de lui construire une chapelle en ce lieu. Et ce dernier, lui, l'évêque, il demande un signe. La Vierge répond en imprimant miraculeusement, après une 4e apparition, le 12 décembre, son propre portrait en pied sur la tilma de l'Indien. C'est fait d'un grossier textile de maguey qui ne dure à peu près que 20 ans, ce genre de tissu-là. Or, il est toujours impeccable. Après plus de 450 ans. Cette image d'une grande délicatesse qui est empreinte sur ce textile grossier ne cesse d'attirer évidemment d'immenses pèlerinages, comme j'ai dit tout à l'heure, et tout Mexicain la tient pour miraculeuse. Un jour, il y avait un journaliste qui interrogeait le président López Mateos au sujet de la légende de Guadeloupe, comme on l'appelle là-bas, la Vierge Guadeloupe. Alors, c'est attiré aussitôt cette réponse. Voyons, il ne s'agit pas d'une légende. et la peinture n'a certainement pas été exécutée par des mains humaines. Vous savez, c'est analysé scientifiquement et on le prouve pour une partie de l'image, parce qu'il y a une partie de l'image en bas, là, qui a été peinte plus tard, qui a été peinte à la main. Un ange qui porte un croissant de lune, là. Je vais donc suivre le récit avec le frère Bruno Bonnemar, le récit du père Mario Rojas Sanchez, parce que le frère Bruno dit que bien que lui seul, à sa connaissance, a su traduire avec une parfaite acribie, comme il dit, le texte nahuatl, parce que le Bonnemar, il lit le nahuatl, et du même coup, le père Sanchez a su révéler la grande richesse théologique et la profondeur des paroles de la Très Sainte Vierge, qui renversent en un instant non seulement les idoles cruelles de la religion païenne ancestrale, c'est vraiment une religion très cruelle, un jour il faudrait que je vous en parle, j'ai déjà donné des conférences là-dessus, j'ai fait des émissions là-dessus à la télévision, il faudrait que je vous en parle. Et cette religion était toujours aussi vivace, peut-être pas aussi vivace, mais elle était vivace entre les cas, 10 ans seulement après la conquête, mais les chrétientés naissantes se renforcissent. Et elles deviennent très fortes grâce à cette image, et ça va les préserver du protestantisme qui va traverser l'océan, qui va envahir les États-Unis. En quelques mots, elle révèle son rôle de médiatrice universelle, la Sainte Vierge de Guadeloupe. Non, elle ne demande pas qu'on lui construise une chapelle pour y être elle-même l'objet d'un culte d'adoration. Ça a toujours été étranger au catholicisme, nous n'adorons pas la Sainte Vierge. Même si on dit qu'elle est mère de Dieu. La mère d'un très grand savant peut être une femme très simple. Et ça ne la rend pas plus savante. Elle veut seulement être, en ce temple, la médiatrice d'une manifestation du vrai Dieu, son Fils, afin de le manifester à son tour, de le glorifier, de le donner aux hommes, par la puissante vertu d'un simple regard de compassion qu'elle va jeter sur eux doucement. Et c'est dans l'image, d'ailleurs, on voit ce regard. Et ça leur procurera la grâce, ça va les conduire au salut, à la libération. Et grâce, donc, et libération dont elle dispose en souveraine, là, ça lui appartient au fond, dans un certain sens, puisque son Fils a tout remis entre ses mains. Elle dit, « Je suis votre mère miséricordieuse. » La tienne, Juan, et celle de vous tous qui vivez unis sur cette terre, et la mère de tous ceux qui, pleins d'amour pour moi, crieront vers moi et mettront leur confiance en moi. C'est là que j'écouterai leurs gémissements, leur tristesse, pour consoler, pour alléger toutes leurs peines, leurs misères, leurs souffrances. Pour que cela puisse se faire et que s'exerce ma miséricorde, va trouver l'évêque de Mexico en son palais. Et dis-lui comment je t'ai demandé, je t'envoie, toi, mon messager, afin de lui représenter combien je désire, avec beaucoup d'insistance, que l'on construise mon théocali ici même. Tu lui raconteras bien tout ce que tu as vu et admiré, tu lui répéteras fidèlement ce que tu as entendu. Et sois sûr que je me montrerai très reconnaissante et que je te rendrai heureux, que cette mission dont je te charge aujourd'hui sera récompensée, ainsi que la fatigue et la peine que tu auras prises pour la mener à bien. Voilà, mon fils le plus petit. Tu as entendu ce que je t'ai dit, et va maintenant, et fais tout ce qui est de toi. » Alors cet Indien, cet Aztèque, s'incline profondément et dit, « Madame, ma reine, je pars accomplir ce que tu m'as ordonné. À présent, je te quitte, moi, ton pauvre serviteur. » Il s'en va tout droit au palais de l'évêque, par la voie royale, la chaussée que, par-dessus la lagune, le relie Tepeyac, le nez de la montagne, c'est ça que ça veut dire, Tepeyac, à Mexico, qu'on appelle Tenochtitlan. Les domestiques de l'évêque ne veulent pas introduire ce misérable auprès de l'évêque, non, non. Mais il attend avec patience obstinée. Les humbles sont comme ça. Regardez dans les salles d'attente de nos hôpitaux, les gens les plus simples et les plus humbles attendent très patiemment. Alors, il est enfin introduit, puis il dit dans son langage ce qu'il a vu et entendu, et Juan González, l'interprète érudit qui est arrivé avec Cortés en 1519, traduit ce récit à l'évêque élu nouvellement arrivé, Juan de Zumárraga. C'était un franciscain, un frère mineur. Alors il répond, « Mon fils, il faudra revenir une autre fois. Je réfléchirai à tout cela. En somme, il ne veut rien entendre. C'est normal, hein, des histoires pareilles. » Alors le soir même, le Juan est de retour au sommet de la petite colline et la reine du ciel s'y trouve au même endroit que le matin. Elle l'attend et dès qu'elle l'aperçoit, il se prosterne devant elle jusqu'à terre puis lui dit « Ma maîtresse, madame, ma reine, ma toute petite fille, mais il y a 57 ans, ma toute petite fille, je trouve ça charmant d'appeler la Sainte Vierge comme ça pour un homme âgé à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est pas si âgé que ça. Ma maîtresse, madame, ma reine, ma toute petite fille, je suis allé là où tu m'as envoyé, j'ai dit tes paroles et ton désir. Avec beaucoup de difficultés, j'ai fini par être introduit chez ce monseigneur qui dirige tous les prêtres. Il m'a reçu de bon cœur et m'a écouté aimablement, mais j'ai compris, dans sa façon de me répondre, qu'il pense que cette idée de construire une église vient de moi et non de toi. Alors je t'en supplie, madame, ma reine, ma petite enfant, charge plutôt quelques nobles ou personnes en vue et estimées de transmettre ton désir et tes paroles si tu veux être cruel. Parce qu'enfin, je ne suis qu'un pauvre homme, un portefeuille, le plus rustre, le dernier du village. Je ne suis pas à ma place, là où tu m'envoies. Oh, ma petite demoiselle, toute petite fille, ma reine, pardonne-moi, je vais t'attrister, te faire du chagrin, tomber en ta disgrâce, et tu vas être irritée à cause de moi, madame, ma maîtresse. Alors, à ce langage bien typé, ça devient, la Sainte Vierge répond, écoute bien, s'il te plaît, mon tout petit enfant. Ils sont nombreux, mes serviteurs, tous ceux que je pourrais charger de mon message et qui pourraient exécuter ma volonté, mais il est absolument nécessaire que ce soit toi précisément qui l'exécute, qui parle, et que mon désir et ma volonté se réalisent par ton entremise. Aussi je te prie, mon fils, toi le plus petit, et je t'ordonne de retourner demain matin chez l'évêque, et redis-lui bien que c'est la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui t'envoie. Alors Juan Diego promet, tout en persistant dans son objection, il dit « Madame, ma reine, ma petite fille, je ne veux pas assombrir ton visage, ni faire de la peine à ton cœur. J'irai donc, et de bonne grâce, peut-être qu'il ne voudra pas m'écouter, ou s'il m'écoute, est-ce qu'il va me croire ?» Alors le lendemain, dimanche, après la messe, il va se jeter tout en larmes au pied de l'évêque et lui répète les paroles de la Reine du Ciel qu'il devait croire, et croire aussi sa volonté qu'on lui bâtisse une église là où elle le demande. Et cette fois, Monseigneur lui fait 1000 questions. Là. Il le questionne. Hein. Comment était cette dame? Où l'as-tu vue? Le récit original ne nous rapporte pas la réponse de Juan Diego, mais dit seulement, il raconta tout à l'évêque, tout ce qu'il avait vu et admiré, et il en a fait la description montrant qu'elle était bien la Vierge, la mère admirable du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il la décrit aussi. Elle avait un beau visage. De jeune fille, d'une merveilleuse beauté, un peu brun, éclairée par un délicieux sourire maternel. Et elle avait les mains jointes et la tête inclinée à droite, couverte d'un voile où fourmillent des étoiles d'or et qui tombent jusqu'aux pieds. Elle a la taille d'une enfant de 15 ans et se dresse sur un croissant de lune tout noir sur lequel elle pose le pied droit, chaussé de gris cendré. Elle éclipse le soleil dont les rayons l'entourent, comme s'ils jaillissaient de son propre corps, les uns grands et droits comme des épées, et les autres en forme de flammes. Elle est soutenue par un ange. Si telle fut la description du voyant, l'évêque a bien dû reconnaître l'Immaculada, comme on dit en espagnol, dont la dévotion était tout à fait dans l'ordre franciscain. Mais l'Indien ajouta sans doute qu'elle était enceinte à cause d'un détail qui, pour lui, devait être indubitable, et cela dut achever d'ébranler le premier évêque du Mexique. C'est qu'il y a des cordons qui pendent de la main et qui semblent couvrir un ventre grossissant légèrement. Ça semble, on ne sait pas. Alors, il fallait autre chose que des paroles, alors il réclame un signe. Juan Diego promet de demander à la Reine du Ciel, et l'évêque congédie finalement le voyant. Mais il donne l'ordre à quelques gens de sa maison de le suivre. Alors, ils sont parvenus, tout le monde, aux abords du pont de Tepeyac, dans le ravin. Et tout à coup, il ne le voit plus, il le perd de vue, il est disparu. Alors après avoir sondé les sentiers, les buissons, alors ils reviennent déconfits auprès de l'évêque, ils racontent comment ils avaient été semés par cet imposteur. Et pendant ce temps, lui, Juan Diego, a retrouvé la Vierge et il lui dit la réponse de l'évêque. Et elle lui dit, « C'est bien, mon fils, tu iras demain porter à l'évêque le signe qu'il te demande afin qu'il te croie. Et sache que je récompenserai ton souci, ta peine et ta fatigue. Et maintenant, va-t'en. Va-t'en. Je t'attends demain. » Mais le lendemain, lundi, Juan Diego n'est pas au rendez-vous parce que de retour à la maison, il avait trouvé son oncle Juan Bernardino très malade. Et le soir, l'oncle avait demandé à son neveu d'aller à Tlatelolco chercher un prêtre. Et c'est le mardi 12 décembre, donc, alors qu'il faisait encore nuit, que Juan Diego se met en route pour aller chercher un prêtre, est parvenu près de la colline du Tepeyac, au pied de laquelle débouche le chemin qui mène à l'endroit où le soleil se lève, là même où il avait l'habitude de passer. Il se dit, si je prends ce sentier, la reine risque de me voir et de m'arrêter et de me donner le signe que demande l'évêque. Et vous verrez ce qui va se passer. C'est un événement fantastique. Nous allons écouter maintenant « Parce mi qui domine » de Cristobal de Morales, compositeur du XVIe siècle. C'est un événement tellement extraordinaire dans l'histoire que je continue le récit où Juan Diego, cet aztèque de 57 ans, se demande s'il doit vraiment aller au rendez-vous avec la Vierge ou aller chercher ce prêtre. Et il veut aller chercher un prêtre pour son oncle. Il dit, mon pauvre oncle est en train de souffrir, puis il attend cette visite. Alors il cherche un chemin détourné pour ne pas rencontrer la Sainte Vierge. Croyant dans sa naïveté, comme le dit le texte du Nikan Mopowa, en angle de Walt, il dit, croyant dans sa naïveté qu'en empruntant un autre sentier, il ne serait pas vu par celle qui nous regarde tous. C'est bien ce texte qui date de l'époque. Il la vit comme elle descendait du haut de la colline, dit le texte, où elle lui était apparue la première fois. Elle venait à sa rencontre, d'un côté de la montagne, lui coupant le passage et s'arrêtant en face de lui. « Eh bien, mon petit enfant, où cours-tu donc? Où t'en vas-tu? » Et lui, tout gêné, honteux et même effrayé, il tombe à genoux. « Ma petite, ma toute petite, ma reine, que Dieu te garde, comment t'es-tu levée ce matin? Ta bien-aimée petite personne se sent-elle bien? Madame, mon enfant. » C'est toujours, je vous le rappelle, un homme de 57 ans qui parle à une enfant de 15 ans qui est la Sainte Vierge. « Madame, mon enfant, je vais attrister ton visage et ton cœur. Sais-tu qu'un de tes enfants se meurt? Mon oncle est très malade. On ne peut guérir le mal qui l'emporte. Il est à la mort. Je me hâte d'aller dans une de tes demeures à Mexico pour chercher l'un des amants de notre Seigneur, un de nos chers prêtres, pour confesser mon pauvre parent et faire tout ce qu'il faut. Certes, c'est pour cela que nous sommes nés, pour attendre que notre mort fasse son office. Mais si pour l'instant je dois m'acquitter de cette tâche, je te promets de revenir à un autre moment pour transmettre ton message. Madame, ma petite jeune fille, pardonne-moi Et pour l'heure, sois patiente avec moi. Je ne vais pas te tromper, ma toute petite fille, mon enfant. Demain, sans faute, je reviendrai au plus vite. » Alors, lorsqu'elle a eu écouté ce discours, la Vierge, pleine de miséricorde, répond par des paroles que depuis lors, tout pèlerin rapporte de sa visite au Tepeyac comme le trésor unique de sa pauvre vie. Écoutez bien ces paroles de la Sainte Vierge. Écoute, elle dit, « Écoute bien, mon petit, le plus petit, et mets bien ceci dans ton cœur. Ce qui t'afflige, ce qui t'effraie, n'est rien. Que ton visage ne se trouble aucunement, non plus que ton cœur. Ne crains pas cette maladie, ni aucune autre épreuve, ni nulle angoisse, nulle peine. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre, sous ma protection? N'est-ce pas moi qui suis ta santé? N'es-tu pas au creux de mon manteau, dans mon giron? Que te faut-il de plus? Non, n'aie nulle angoisse, aucune amertume, et que la maladie de ton oncle ne t'afflige pas, car pour l'instant il n'en mourra pas, sois sûr qu'il est déjà guéri. » Alors dès qu'il entend ces paroles, Juan Diego est tout consolé, son cœur s'apaise, et se met alors à supplier la reine du ciel de l'envoyer sans tarder à l'évêque avec un signe, une preuve. Alors elle lui ordonne de monter au sommet de la colline à l'endroit où elle lui est apparue, puis elle lui dit, « Monte, mon fils le plus petit, au sommet de la colline. Et là, où tu m'as vu et entendu, là tu verras des fleurs variées. Alors coupe-les, rassemble-les, fais-en un bouquet, puis descends et apporte-le ici en ma présence. » Alors Juan Diego grimpe jusqu'au sommet. On ne voit que des rochers, des chardons, des épines, des acacias. Puis là, il s'arrête, cloué d'admiration. Elles étaient bien là, tout épanoui, des fleurs de toutes sortes, des fleurs délicates de Castille, couvertes d'une rosée qui leur faisait une parure de perles fines. Là, il s'empresse de les couper, puis il fait une gerbe qu'il place dans son tablier, puis il se hâte de redescendre auprès de la reine du ciel. Alors celle-ci, après les avoir regardées, les prend dans sa petite main et les dispose au creux de l'ayat, le vêtement, tablier de Juan Diego, en lui disant, « Mon tout petit enfant, ces fleurs si variées sont le signe que tu apporteras à l'évêque, et tu lui diras de ma part qu'il doit réaliser mon désir et ma volonté, que tu es bien mon messager et que j'ai mis ma confiance en toi. Une fois en présence de l'évêque, tu ouvriras ton manteau et tu lui montreras ce que tu lui apportes, et tu lui raconteras tout, lui disant comment je t'ai ordonné de monter tout en haut de la colline pour couper ces fleurs, et tout ce que tu as vu et admiré, puis avec cela, tu toucheras le cœur de ton évêque, et tu verras, il consentira à élever l'église que je lui ai demandée. » Alors, après avoir entendu la recommandation de la reine du ciel, il va gaiement, sûr du succès de sa mission, il regarde sans cesse les fleurs qu'il porte dans son manteau, et puis, il respire leur parfum. Parvenu chez Monseigneur l'évêque, il tombe sur les gardes, les valets, il leur demande instamment de le prévenir, l'évêque, qu'il désire être reçu. Aucun d'entre eux ne lui prête attention, pas un paysan de 57 ans. Il est encore trop tôt de toute façon. Puis, il commence à le connaître, ce gars-là. C'est du désagrément qu'il leur cause. Ils sont excédés de ces visites. D'ailleurs, leurs compagnons leur ont raconté comment ils les avaient égarés quand ils l'ont suivi. Alors, il patiente longtemps. Et il attend d'être appelé. Alors, ils sont tous intrigués, eux, de savoir ce qu'il sert dans son manteau. Il s'approche de lui, il le menace. Juan Diego, qui voit qu'il lui est impossible de cacher plus longtemps son trésor, il leur montre un tout petit peu, c'était des fleurs. Quand les gardes voient la variété des fleurs qui venaient de Castille, c'est-à-dire d'Espagne, toutes fraîches malgré la saison, épanouies puis parfum merveilleux, ils sont très étonnés et curieux. Alors ils tentent par trois fois d'en prendre quelques-unes, mais ça sert à rien. Au moment de les prendre, ils voient plus les fleurs comme des fleurs, mais elles sont peintes ou brodées ou tissées sur le manteau. Alors ils vont trouver l'évêque pour lui raconter ce qu'ils ont vu, puis lui disent que le petit Indien qui est là, déjà venu plusieurs fois, demande à être reçu, et qu'il attend déjà depuis un bon moment. Alors l'évêque pense qu'il vient peut-être lui apporter la preuve qu'il avait demandé. Il donne immédiatement l'ordre de le faire entrer. Alors Juan Diego entre, se prosterne comme à l'accoutumée, puis il dit, « Monseigneur et mon maître, J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai parlé à la Dame, Notre-Dame, la Reine du Ciel, Sainte Marie, la Mère admirable de Dieu. Je lui ai dit que tu désirais un signe pour pouvoir me croire et accepter de lui construire une église là où elle le demande. Et je lui ai dit également que j'avais promis de te rapporter ce signe comme preuve de sa volonté exprimée par moi. Ainsi, elle a bien voulu t'accorder ce signe afin que tu réalises sa demande. Et au même instant, il ouvre son manteau blanc qu'il tenait serré contre lui. Les fleurs de Castille tombent. Et c'est alors que l'image vénérable de la parfaite et toujours Vierge Sainte Marie, Mère de Dieu, apparaît soudain, peinte sur le manteau. Elle apparaît tout entier, telle qu'on peut la voir à présent, empreinte sur le même ayat. J'en avais déjà vu peut-être cette image de Notre-Dame de Guadeloupe. Et quand l'évêque la voit, et avec lui ceux qui l'entourent, tous s'agenouillent, de murs muets d'admiration. Ils sont émus, et le cœur débordant d'amour. L'évêque est en larmes. Il lui fait sa prière. Il la supplie de lui pardonner de n'avoir pas immédiatement réalisé sa volonté, puis il se relève. Alors là, il détache l'image de la Reine du Ciel du cou de Juan Diego, puis il l'emporte pour la placer dans son oratoire. Juan Diego demeure toute la journée chez l'évêque, jusqu'au lendemain. Alors celui-ci, il lui dit, « Allons, en route, tu vas nous montrer où la Reine du Ciel veut que l'on construise cette église. » Et quand Juan Diego a eu montré l'endroit où la Reine du Ciel avait ordonné qu'on lui construise son théocaltine, il dit aux gens qu'il voulait aller voir chez lui, son oncle Juan Bernardino, qui est à l'agonie, lorsqu'il l'a quitté pour chercher un prêtre afin de le confesser puis de le préparer à mourir, et puis que la Reine du Ciel a guéri. Quelques personnes l'accompagnent donc, et quand ils sont arrivés chez lui, ils ont trouvé l'oncle sur pied, sans plus de douleur. Il est fort étonné de voir son neveu en compagnie si honorable. Hein, Juan Diego lui raconte comment, alors qu'il est parti pour chercher un prêtre, la Reine du Ciel lui est apparue sur le TPA et lui a ordonné d'aller trouver l'évêque et de lui dire sa volonté d'édifier une église à cette place. Et elle lui a dit ne pas s'en inquiéter car son oncle était guéri. L'oncle dit que c'était la vérité, qu'elle l'a bien guéri et qu'il l'a vu telle que s'est montrée à son neveu et qu'elle lui a même ordonné d'aller voir l'évêque. Elle l'a guéri miraculeusement à l'instant même où elle lui était apparue. Puis elle lui a dit encore qu'il fallait appeler sa précieuse image la toujours Vierge Marie de Guadalupe. Et plus tard, on conduit Juan Bernardino à l'évêque pour qu'il témoigne en sa présence. Et alors l'évêque les héberge tous les deux chez lui quelques jours pendant que l'on construit une petite chapelle de la Reine du Ciel sur le Tepeyac. Là où elle est apparue à Juan Diego, et l'évêque transfère ensuite la précieuse image de la Reine du Ciel dans l'église des Franciscains, l'Iglesia Mayor, qui sert alors de cathédrale. On est au début, c'est pas très grand ces bâtiments. Il la sort de l'oratoire de sa maison pour que tous la voient puis l'admirent. Et alors toute la ville se met en mouvement et tous viennent la voir, l'admirer, la vénérer comme chose divine et la prier. S'étonne de la merveille par laquelle elle s'est manifestée. En effet, ce n'est pas un homme de cette terre qui a peint cette belle image. Et ainsi s'achève le Nikan Mopowa, ce texte, la relation tout à fait originale des événements de Tepeyac. Ramon Sanchez Flores a montré, dans une communication absolument décisive au Centro de Estudios Guadalupanos, le centre des études guadalupéennes, en 1978, que cette maison de l'évêque Zumarraga, dont le lieu où s'est opéré ce grand miracle, bien que cette maison de l'évêque est précisément située à proximité des ruines du Templo Mayor, le sanctuaire principal de la religion païenne détruit par les Espagnols et restauré aujourd'hui avec ferveur par des autorités néo-païennes du Mexique, pourtant catholique et pourtant enfant privilégié de Marie. Le récit a reçu plus tard une finale, qui est une description de l'effigie, dont l'apparition nous révèle la beauté sur la trame là, du tablier du pauvre paysan. C'est comme l'acte de naissance du peuple mexicain, dont l'identité la plus profonde et l'origine véritable s'enracine, on peut le dire, comme disent les textes anciens, dans la maternité de la Vierge de Guadeloupe et dans la filiation de Juan Diego. C'est ce que dit Ramón Sánchez Flores, d'ailleurs, dans un 1600 raccourci de toute l'histoire du Mexique. Et bientôt, sur tous les chemins du Mexique, des Indiens vont se mettre en marche pour aller vénérer l'image précieuse, la preciosa imagen, la ravissante image de la Madrechita de los Mexicanos, de la petite mère des Mexicains. Il y a plus de 450 ans que ce défilé n'a pas cessé. Ça continue toujours. C'est absolument extraordinaire. Le journal La Croix publiait un communiqué de l'agence Associated Press en provenance du Texas. Ça, il y a bien longtemps. L'image de la Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe n'a pas livré son secret à l'examen des rayons infrarouges. Le mystère demeure sur la manière dont l'image s'est imprimée et sur la conservation du tissu pendant 50 ans, alors que ce genre de tissu ne tient pas plus de 20 ans d'habitude. L'image de la Vierge de Guadeloupe demeure largement inconnue des milieux universitaires où l'on ne la considère pas comme un objet de recherche digne de respect, dit-on, et que le grand public l'ignore encore davantage. Mais il faut vraiment examiner cette peinture. Et c'est ce qu'on a fait. Un architecte agnostique, Ramírez Vázquez, qui est aujourd'hui ministre, on lui a confié le projet de la nouvelle basilique en 1976. C'est une nouvelle basilique ultramoderne là-bas. Payant demandé à étudier l'image, il a si bien regardé qu'il est devenu catholique, lui qui était agnostique. Ce n'est pas une illumination mystique, ce sont les propriétés étonnantes, tant de la peinture, entre guillemets, elle-même, que de son support textile, qui non seulement saute aux yeux, mais qui la regarde attentivement, mais commence à faire l'objet d'expertises scientifiques. À l'instar du Saint-Suaire, hein? Et il faut vraiment lire les textes du frère Bruno Bonnemar, c'est extraordinaire l'étude qu'il a faite, une étude extrêmement savante. Nous allons retourner à l'hymne à la Vierge en langue aztèque de Hernando de Franco, composé au 16e siècle.
Dios in plazo, Dios in plazo, la bomba que impone el signo.
En 1936, on a prélevé, un professeur allemand a prélevé deux fibres. Une de couleur rouge, puis une de couleur jaune sur cette image de Notre-Dame de Guadeloupe. Le résultat de l'analyse a été stupéfiant. Il n'y avait, dans les fibres examinées, aucun colorant d'aucune nature, ni végétal, ni animal, ni minéral. Puis les colorants synthétiques sont évidemment exclus, puisqu'ils n'ont commencé à être réalisés qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Alors, c'est un premier étonnement. Il y a aussi un monsieur Salinas, dessinateur de son métier, qui, en 1951, a observé à la loupe une photo de la Vierge de Guadeloupe, puis s'est rendu compte, en scrutant la pupille de l'œil droit, il a cru discerner les contours d'une silhouette, comme le reflet d'un buste humain. Et on peut faire l'expérience. D'ailleurs, il y a des illustrations dans les ouvrages sur Notre-Dame de la Guadeloupe qui nous prouvent ça. 5 ans plus tard, donc en 1956, le docteur Torija Lavoignet, chirurgien, examine l'image originale à la basilique à 5 reprises entre juillet, donc 1951, et mai 1958. Et puis, l'exactitude des rapports que Salinas a publiés sont extraordinaires. Un consulté une première fois, Lavoignet, là, le docteur Lavoignet, est simplement invité à examiner de près les yeux de la Vierge. Il le fait d'abord à l'œil nu. Il dit: quelques détails me surprirent, particulièrement les reflets lumineux. Il demande une loupe. Puis je ne savais pas qu'on avait découvert un buste humain dans les yeux de la Guadalapana. J'observais avec une plus grande attention et je m'aperçus qu'effectivement on voit un buste humain dans la cornée des deux yeux. Je l'observais d'abord dans l'œil droit, puis dans l'œil gauche, et surpris, je pensais qu'il était nécessaire d'examiner le fait au moyen de procédés scientifiques. Et 15 jours plus tard, le 23 juillet 1956, Lavoignet procède à un examen minutieux avec un ophtalmoscope, et sa découverte est prodigieuse. Dans la cornée des yeux, on perçoit l'image d'un buste humain. La distorsion et l'emplacement de l'image sont identiques à ce qui se produit dans un œil normal. Quand on dirige la lumière de l'ophtalmoscope sur la pupille d'un œil humain, on voit briller un reflet lumineux sur le cercle externe de celle-ci. En suivant ce reflet et en changeant les lentilles de l'ophtalmoscope, convenablement, on obtient l'image du fond de l'œil. Je vous fais grâce de toutes les expériences scientifiques, les explications scientifiques, c'est des pages et des pages. Donc, ça ressemble un peu au Saint-Suaire de Turin dans un sens. Et les spécialistes de cette image de Notre-Dame de Guadeloupe à Mexico démontrent sereinement puis objectivement par des recherches absolument rigoureuses l'historicité indubitable des apparitions de Tepeyac. Avec méthode, ils ont scruté, puis ils scrutent toujours scientifiquement les propriétés incompréhensibles de cette image qui n'est pas faite de main d'homme. Selon la parole d'ailleurs de Pie XII, des pinceaux qui ne sont pas d'ici-bas ont peint cette très douce image que l'usure des siècles a respectée. Car il faut dire aussi que l'usure des siècles, c'est absolument phénoménal que l'image soit toujours là. Pour une faune annuelle de 6 à 8 millions de pèlerins, il a fallu comprendre, en 1976, qu'il fallait construire, on a entrepris d'ailleurs cette année-là, la construction d'une nouvelle basilique qui a doublé l'ancienne, qui a eu besoin d'ailleurs de travaux de restauration. Et tout cela se révèle encore trop petit. Il y a eu 20 millions de pèlerins en 1979. Ça continue toujours. C'est le triomphe de la Sainte Vierge. L'épanouissement prodigieux de son culte annonce des victoires encore peut-être plus éclatantes. Elle est notre mère. Elle est la mère de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Nous ne saurons jamais l'oublier. La voici la Vierge qui adresse son message de paix. Je suis votre mère miséricordieuse, la tienne et celle de tous ceux qui vivent unis sur cette terre. Vous savez, j'ai lu le texte au début. Et elle ajoute, et je suis la mère de tous ceux qui, pleins d'amour pour moi, crieront vers moi et mettront leur confiance en moi. Écoute bien, s'il te plaît, mon tout petit enfant. Ils sont nombreux, mes serviteurs. tout ce que je pourrais charger de mon message et qui pourrait exécuter ma volonté, mais il est absolument nécessaire que ce soit toi, précisément, qui l'exécute, qui part, et que mon désir et ma volonté se réalisent par ton entremise. Au même moment où elle se penche sur les petits, les pauvres, les méprisés, cette part privilégiée de toute l'Église qu'elle aime, eh bien, elle a soin de les placer sous l'autorité du colonisateur en disant qu'il faudrait appeler sa première image la toujours Vierge Marie de Guadeloupe en souvenir de Guadeloupe en Espagne. C'est pas cruel, non. Il y a plus de 450 ans, donc, que la Vierge a donné vie à ce peuple mexicain. Par cette apparition étonnante, on peut ne pas y croire, on peut ne pas croire ce que je vous ai dit, mais il n'en reste pas moins que le tissu qui devrait disparaître en 20 ans est toujours là après plus de 450 ans.